Nous sommes le mercredi 8 janvier. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, l'Iran a frappé cette nuit deux bases militaires abritant des soldats américains en Irak. Une quinzaine de tirs de missiles. La télévision publique iranienne parle de 80 morts. Bilan non confirmé par Washington. Nous serons à Bagdad, à Washington, dès le début du journal, après les autres titres.
Et dans ce contexte, un étrange accident d'avion à Téhéran. Un Boeing ukrainien s'est écrasé peu après son décollage de Bagdad ce matin. Il n'y a pas de survivants. Peu d'avancées finalement hier après la reprise des négociations sur la réforme des retraites. Les transports restent perturbés en Île-de-France. Nouvelle journée d'action demain et rediscussion vendredi. Le gouvernement traîne des pieds pour révéler les conclusions d'une vaste opération de testing dans les grandes entreprises. Conclusion que France Inter vous dévoile ce matin. Et puis le retour de Neymar sur la pelouse du Parc des Princes ce soir. Un Neymar nouveau, nous dit-on, qui a appris la politesse.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50 avec vous, Alexandra.
C'est l'économiste Philippe Aguillon, un des conseillers du candidat Macron en 2017. Il y a un mois, il sonnait l'alerte sur une réforme des retraites obscurcie par des considérations budgétaires. Comment regarde-t-il aujourd'hui le bras de fer sur l'âge pivot? C'est à 7h50.
À tout à l'heure, Alexandra. 8h20, le grand entretien de la matinale avec Hugo Micheron, jeune chercheur qui publie le djihadisme français. Quartier, Syrie, prison. C'est aux éditions Gallimard. Dialoguez avec lui. 01 45 24 7000.
France Inter. Téhéran avait promis des représailles contre les États-Unis après la mort à Bagdad vendredi dernier du général iranien Soleimani. Ces représailles ont donc eu lieu la nuit dernière. Nous ne cherchons pas l'escalade ou la guerre, mais nous défendrons contre toute agression, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Bonjour Omar Waman.
Bonjour Agnès.
Vous êtes l'envoyé spécial de France Inter à Bagdad. Des tirs de missiles iraniens, une quinzaine donc, ont frappé cette nuit des bases irakiennes abritant des soldats américains en Irak.
Oui, à 1h20 précisément, 1h20 du matin très exactement, et ce n'est pas une heure choisie au hasard, c'est l'heure précise de la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué dans la nuit de jeudi à vendredi à Bagdad. Tout un symbole, ces missiles se sont abattus sur deux bases irakiennes, des bases utilisé par les forces américaines qui dirigent la coalition internationale en Irak. Une à Ain al-Assad. Ain al-Assad, c'est une base qui se trouve à 180 km à l'ouest de la capitale, dans une zone désertique dans la province d'Al-Anbar. L'autre site militaire frappé se trouve dans le nord de l'Irak, à Erbil, dans la région du Kurdistan, allié historique des États-Unis. Ces attaques, survenues en trois vagues, ont été immédiatement revendiquées par les gardiens de la révolution, les Pasdaran, bras armés de l'ayatollah Khamenei, le guide suprême iranien qui avait appelé à venger sévèrement la mort de Qassem Soleimani, une mort qui ne pouvait pas rester sans réponse de la part de Téhéran, qui a décidé de frapper quelques heures à peine après les funérailles du général iranien qui se sont déroulées hier dans le sud-est de l'Iran. Et peu après ces représailles, Agnès, un conseiller du guide suprême a posté sur Twitter un drapeau iranien en réponse au président américain Donald Trump, qui avait tweeté un drapeau aux couleurs de l'Amérique après la mort de Qassem Soleimani.
Merci Omar Waman en direct de Bagdad pour France Inter avec Gilles Gallinaro pour les moyens techniques. Jusqu'ici, tout va bien, a écrit en début de soirée Donald Trump sur Twitter. Mais depuis, la télévision iranienne a donc annoncé un bilan de ces frappes. Il y aurait 80 morts. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Agnès.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Washington. Alors que dit-on à Washington de ce bilan? Donald Trump doit prendre la parole dans les heures qui viennent.
Oui, le président américain a promis une déclaration ce mercredi matin, heure de Washington, c'est-à-dire en tout début d'après-midi pour vous. Effet notable, il a attendu un peu plus de 4 heures pour réagir après ces frappes par un simple tweet dans lequel Trump écrit « Tout va bien, vous l'avez dit, on est en train d'évaluer les dégâts, mais jusqu'ici tout va bien ». Le président américain implicitement semble dire que cette quinzaine de missiles balistiques n'a fait aucune victime. C'est aussi d'ailleurs ce que disent les autorités irakiennes, sauf qu'en face, il y a la télévision publique iranienne qui affirme ce matin que 80 terroristes américains ont été tués dans la nuit par ces bombardements. Les médias officiels iraniens parlent donc de victimes nombreuses. Ces frappes ont eu lieu à Agnès il y a environ 8 heures de cela, et on voit que la guerre de communication est engagée. Victime ou pas, on devrait de toute façon le savoir assez rapidement. En tout cas, pour l'instant, la réaction américaine est, disons, plutôt mesuré, alors qu'il y a seulement 3 jours, Trump promettait aux Iraniens une réponse immédiate et disproportionnée s'il ciblait des intérêts ou des ressortissants américains. et nous ne sommes pas ce matin, Agnès, dans une réponse immédiate.
Merci Grégory Phillips, correspondant de France Inter à Washington. Ajoutons que l'Agence fédérale de l'aviation américaine a interdit aux avions civils américains le survol de l'Irak, de l'Iran et du Golfe. Et c'est justement dans ce contexte extrêmement tendu qu'un Boeing ukrainien s'est écrasé ce matin, peu après son décollage de Téhéran. Il n'y a pas de survivants. Au moins 170 personnes se trouvaient à bord. Selon les premières déclarations, il s'agirait d'un accident dû à des problèmes techniques. Siavosh Gazi est à Téhéran pour France Inter.
L'avion qui partait pour Kiev, la capitale d'Ukraine, s'est écrasé quelques minutes après son décollage dans un parc près d'une zone résidentielle. Selon un responsable du Croissant Rouge iranien, tous les passagers et les membres d'équipage ont été tués dans le crash. Deux hélicoptères et 60 équipes de secours ont été envoyées sur place. Selon le porte-parole de l'aéroport international de Téhéran, l'avion s'est écrasé à cause d'un problème technique. On ne connaît pas la nationalité de tous les passagers, mais les responsables ont affirmé qu'il y avait des Iraniens parmi eux. Après le crash, l'avion a pris feu, ce qui a empêché l'équipe de secours d'intervenir immédiatement. Selon les images et les photos de l'accident, l'avion s'est pulvérisé et le plus grand morceau est une partie d'une des ailes de l'appareil. Téhéran, Siavosh Gazi, RFI pour France Inter.
Et nous reviendrons bien sûr sur la situation ce matin en Irak, en Iran et aux États-Unis tout au long de la matinée sur Inter. Lui promet de faire éclater la vérité sur ce qu'il qualifie de complot politico-industriel. Conférence de presse très attendue cet après-midi à Beyrouth de Carlos Ghosn, dont ce sera la première prise de parole publique depuis sa fuite rocambolesque de Tokyo vers le Liban. Fuite dont son épouse Carole explique ce matin n'avoir rien su jusqu'au dénouement. Carole Ghosn, désormais poursuivie par la justice japonaise pour fausse déclaration.
Il est 7h07, Agnès, le témoignage ce matin de la fille de Cédric Chouviat, mort à la suite d'une interpellation, c'était vendredi à Paris.
Les avocats de ce père de famille de 42 ans parlent d'une bavure. Le ministre de l'Intérieur évoque de son côté des questions légitimes auxquelles des réponses devront être apportées. Une information judiciaire pour homicide involontaire a été ouverte. Les premiers résultats de l'autopsie font état d'une asphyxie avec fracture du larynx. Des vidéos montrent une interpellation violente. L'homme qui porte encore son casque de scooter sur la tête est maintenu au sol par trois policiers. Sa fille, Sophia Chouviat, 19 ans, elle exprime au nom de ses quatre frères et sœurs âgés de 3 à 21 ans. Elle s'exprime pour demander la vérité.
On est dans un chagrin profond qui partira jamais. Mais pour l'honneur de mon père, j'aimerais que justice soit faite. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas d'ennemi. Mon seul ennemi, c'est le désespoir et l'injustice. Parce que c'est des valeurs que mon père il m'a inculquées. Malheureusement, il y a trop de vérités cachées, trop de choses camouflées. J'aimerais juste que les mensonges cessent. Parce que moi, la seule chose que je veux véhiculer, c'est son courage. Et c'est la volonté qu'il avait de vivre juste pour ses enfants. C'était un homme qui détestait l'injustice, le désespoir, la solitude. Il aimait que les gens soient entourés. Notre famille prône la paix, mais aussi la justice.
Témoignage recueilli par Sophie Parmentier. La situation semble figée au 35e jour de grève contre la réforme des retraites. Lors de la reprise des négociations hier, le Premier ministre a accepté l'idée de la CFDT d'une conférence sur le financement de la réforme. Une première réunion aura d'ailleurs lieu après-demain. Mais Édouard Philippe maintient l'instauration d'un âge d'équilibre que refuse toujours Laurent Berger. De son côté, l'intersyndicale CGTFO Solidaire CFE-CGC-FSU espère mobiliser demain pour la 4e journée nationale d'action. Même si Maxime Debs, les comptes des grévistes de la première heure sont dans le rouge.
Conducteur de train, Michael le premier préfère ne pas compter.
On n'y réfléchit pas trop parce que si tu commences à calculer, je perds à peu près 100 euros par jour. Tu commences à calculer, tu pleures.
À côté de lui, son collègue à la RATP est entré dans le mouvement dès le 5 décembre.
Bon, moi j'ai 34 jours de grève pure. Sur 34 jours, on doit être à 2500 euros. Nous on entend beaucoup les caisses de grève, ils vont couvrir quelque chose. Mais on sait pertinemment que les caisses de grève, au bout du conflit, on va prendre 200 euros. Mais c'est ridicule comparé à toute la perte qu'on a.
Alors sans caisse de grève, on fait comment? Franck, enseignant, ne fait surtout pas d'excès.
Comment voulez-vous? Il y a solidarité familiale si on peut. On réduit sa consommation.
Méthode plus radicale pour ce cheminot, père de 3 enfants.
Moi je suis prêt à faire un prêt, d'ailleurs je crois que ça va se finir comme ça. Après tout on fait des prêts pour s'acheter des 16-9e, hein, voilà, pour payer le loyer, je vais aller voir mon bailleur, on se débrouillera.
En vrai la débrouille, le système D c'est très bien, mais les grévistes aujourd'hui ont surtout besoin de relais pour Béranger Cernon de la CGT Cheminot.
C'est très long, c'est très dur, on est 100% d'accord pour être la locomotive, par contre il faut que dès demain dans la rue il y ait un maximum de monde, que derrière cette locomotive on mette un maximum de wagons. Tous les oubliés de la Startup Nation, bah, il vous reste que la rue, alors descendez dans la rue.
Entrer dans le mouvement ou soutenez-nous financièrement, embraye un autre gréviste, pas loin, un euro par-ci, un euro par-là, ça peut aider si les Français sont si opposés à la réforme qu'ils nous le montrent par des actes concrets.
Reportage de Maxime Debs et pour aujourd'hui, les prévisions de trafic sont à peu près les mêmes que celles d'hier. 5 ans après l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo, le ministre de la Culture annonce la création d'une maison de presse et du dessin satirique pour valoriser les caricatures et les protéger alors que partout dans le monde, des menaces pèsent sur les dessinateurs. Nommé pour couvrir de honte, c'était la promesse du président de la République il y a 2 ans pour lutter contre les discriminations à l'embauche. Depuis, une grosse opération de testing a bien été menée par le gouvernement, mais depuis, rien, aucun bilan dressé officiellement. Les chercheurs mandatés pour cette étude viennent donc, eux, de publier leurs résultats et ils sont, une fois encore, assez édifiants. Claire Chaudière a pu les consulter en exclusivité pour France Inter.
En moyenne, près de 20% de chances en moins de recevoir une réponse pour un emploi si l'on s'appelle Yasmina Medaoui plutôt qu'Amandine Fourier ou Mourad Benzakri plutôt que Florian Dubois. Cela fait plus de 8 mois maintenant que ces résultats sont sur la table du gouvernement après l'envoi de 17 600 candidatures et demandes d'informations fictives, à chaque fois 2 profils identiques, patronyme maghrébin d'un côté, franco-français de l'autre.
Il y a des différences de traitement dans beaucoup d'entreprises. Elles ont un caractère, disons, massif.
Le chercheur Yannick Lorty a coordonné ces testings sur 103 très grandes entreprises. Le gouvernement, lui, en a ciblé 40.
Là, l'intérêt, c'est qu'on peut produire ces pourcentages au niveau même de chaque entreprise. Ces entreprises qui souvent sont engagées dans des labels, signent des chartes et qui se trouvent présenter des différences de traitement entre les candidats.
Mais l'exécutif ne souhaite donc pas donner de nom aujourd'hui, dit travailler d'abord avec les entreprises fautives. Incompréhension de Samuel Thomas de la Fédération des Maisons des Potes qui se souvient de la promesse du président il y a 2 ans.
Une opération de testing a été financée par l'État. On ne nous donne pas les résultats. Qu'est-ce qui se passe? La notoriété des entreprises est tellement grande qu'on ne peut pas se permettre de la dénoncer. Qu'est-ce qui fait que ce name and shame qui avait été promis n'est pas mené jusqu'à son terme?
À noter que sur la centaine d'entreprises testées, une quinzaine discrimine plus massivement que les autres.
Il est 7h12 en ce début d'année. Un Neymar nouveau est arrivé.
Un Neymar qui devrait retrouver le terrain ce soir au Parc des Princes pour le quart de finale de la Coupe de la Ligue face à Saint-Etienne. Le Brésilien présenté comme l'un des hommes clés de la deuxième partie de saison du PSG pourrait même prolonger. Car qu'on se le dise, Bruno Salomon, Neymar a changé.
Il a changé, Neymar. Enfin, en interne au PSG, on nous explique qu'après plus de 2 ans à faire la tête tout le temps, le Brésilien est un peu plus jovial avec le personnel, des bonjours, au revoir en français. Il est un peu plus ponctuel, passe plus de temps avec ses coéquipiers. En revanche, alors que des joueurs comme Herrera ou Navas, tout juste arrivés au PSG, prennent des cours de français intensifs, lui, Neymar, ne veut pas apprendre la langue. Pourtant, on nous laisse entendre que le Brésilien vit bien dans le vestiaire. À Paris aussi, et clairement, eh bien, ce retour en grâce est dû en grande partie à Leonardo, le directeur sportif, qui a recadré assez sèchement son compatriote brésilien. D'ailleurs, il se dit maintenant que son entourage n'exclut plus l'idée d'une prolongation pour un joueur qui, finalement, s'il calcule bien son coup, peut aussi se dire que l'été prochain, Kylian Mbappé pourrait partir et lui devenir ou redevenir l'unique patron technique du PSG.
Enfin, cette dernière information en provenance de Bagdad. L'armée irakienne affirme que les tirs de missiles iraniens cette nuit n'ont fait aucune victime au sein des forces irakiennes. Nous y reviendrons bien sûr dans le journal de 7h30.